Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 4 février 2026. On se retrouve malheureusement avec un Bitcoin qui nous lâche sur une semaine 15%, un Ether moins 25%, ça commence à piquer. Et donc aujourd'hui, en termes de prix, on est à 76 400. Alors c'est vrai qu'il y a ce petit support d'avril 2025 des tarifs de Trump autour de 75 000. Ça a l'air pour l'instant de vouloir se tasser autour de cette zone, mais pour le moment, on n'a pas eu non plus de réaction complètement extraordinaire sur cette zone. Donc on a un Ether à 2275 approximativement. Il est à noter Monero qui est dans le vert sur les dernières 24 heures ainsi que le Tron à plus 3 et plus 1,36. On en a un qui en mensuel sort un peu du lot, c'est Hyperliquid à la 14e place, 27% sur le mois à l'équilibre en hebdo et moins 9% sur les dernières 24 heures. Et quand on s'enfonce comme ça dans le top 50, on n'a pas grand chose malheureusement qui contre la statistique. On a le Paxos Gold bien entendu qui est toujours en positif en mensuel de 14%, plus 4 sur les dernières 24 heures à 5 100 $ l'once. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez acheter de l'or tokenisé. Donc aujourd'hui, ça représente un risque supplémentaire plutôt que d'avoir votre or directement en votre propre détention. Ou parfois, il y en a qui le laissent en port franc. Vous avez des sociétés de métaux précieux qui vous proposent de vous les garder comme ça, que ça soit en Suisse ou ailleurs. Mais voilà, si on fait l'analogie avec le Bitcoin, bien entendu, Bitcoin est le self-custody. Donc le fait de détenir ses propres clés privées, de détenir ses propres BTC, c'est légal à détenir son or en physique et bon nombre de personnes préfèrent le voir ainsi. On clôture le top 60 avec Kaspar, Bitrum, Midnight qui sont désormais autour de 700 à 800 millions. Donc ça continue d'écrémer très largement et on verra en toute fin de bear market puisque aujourd'hui c'est un énorme débat sur les réseaux sociaux de si le point bas, pas le point bas, etc. Et quand est-ce qu'il interviendra bien entendu, mais je suppose au vu justement de la dynamique initiée que du côté des altcoins on n'est pas encore tout à fait au bout de nos peines et on verra donc d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, jusqu'où pourra descendre justement ce top 50 au top 100 et de voir par rapport au bear market précédent de combien finalement les altcoins ont réellement progressé entre deux points bas de marché. Au niveau des news impactantes, on avait Vitalik Buterin, donc le cofondateur de Ethereum, comme vous le savez, qui a fait un long post qui a été vu 3 millions de fois autour des Layer 2 qui pensent aujourd'hui assez obsolètes et qui finalement redirigent de la liquidité vers eux, mais à des fins finalement purement pécuniaires plutôt que d'essayer de faire avancer véritablement le réseau. Donc pour lui, vu les grandes transitions majeures qui ont eu lieu ces dernières années et qui continueront d'arriver les unes après les autres dans les prochaines années, eh bien on pourrait ne plus avoir besoin tout court de Layer 2. Et c'est un sujet dont on s'était emparé assez tôt sur la chaîne quand on avait vu les déboires notamment du côté de Polygon, Matic mais pas que, Arbitrum, Optimism, petit à petit on voyait que ça prenait pas la bonne direction et aujourd'hui eh bien c'est confirmé finalement par le fait que Ethereum marche très bien et que même quand vous le voyez, quand vous utilisez la blockchain Ethereum aujourd'hui en layer 1, donc chaîne principale, vous n'avez pas des frais qui sont complètement délirants et c'est ce qui importe finalement à l'utilisateur final en plus de pouvoir passer beaucoup de transactions en simultané. L'analyste curieux qui met en avant le recul de sociétés phares comme Netflix, Nvidia, ICE, Nasdaq avec des moins 8% jusqu'à moins 10% pour le S&P global, Amazon moins 2, moins 6 pour Adobe. On a également MSCI dans la liste, donc c'est peut-être déjà intéressant pour commencer à regarder, en tout cas pour ceux qui font du stock picking, mais comme on le disait à l'instant et comme le mettant en avant également Bob Lucas, c'est exactement ce avec quoi on a conclu quasiment la dernière émission. Vous pouvez retourner voir de lundi. On a par exemple AAV aujourd'hui qui est sur un support autour de 125-130 $. Mais si Bitcoin finit sa course de ce cycle entre guillemets, puisque aujourd'hui aussi ça a l'air de déranger certaines personnes quand on parle encore de cycle, donc on va dire si Bitcoin termine sa phase de consolidation baissière long terme beaucoup plus bas que ce qu'il est aujourd'hui, et par beaucoup plus bas l'objectif n'a pas changé depuis des trimestres sur la chaîne, peu ou prou autour de 55 000 $, plus ou moins 10 000, donc ça peut être 45 000 si c'est l'or se met à vendre, ça peut être autour de 60-65 si on vient juste nettoyer sous cette zone actuelle des 60 75-70. Mais dans tous les cas, si ça arrive, que Bitcoin perd approximativement une vingtaine de milliers de dollars supplémentaires, est-ce que des 125 dollars, eh bien, on ne verra pas AAV autour de 45-50, qui est son véritable support long terme? Et il a fait le même exercice pour bon nombre d'autres altcoins. XRP, on pourrait le revoir à moins 60% autour de 60 centimes. On a le SUI qu'on pourrait revoir autour de 40 centimes. Et le BNB, toujours sur ce pattern de moins 60%, qu'on pourrait voir autour de 250 à 300 dollars. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des alts qui pour certains sont en bear market depuis très longtemps. C'est peut-être pas forcément le cas justement représentatif de Solana ou de BNB, mais c'est toujours malheureusement Bitcoin qui lead la charge et qui, lors des bear markets, donne ce tempo, un tempo qui pour les altcoins peut être et s'avérer destructeur assez longtemps au travers du temps. Le DXY qui n'a pas dit son dernier mot, donc il est venu balayer juste entre 95 et 96, et on était de retour à 97, c'était il y a 48 heures, donc on va quand même aller faire le point en fin d'émission. On avait également tout ce qui était métaux précieux qui était en déroute, comme vous le savez, et il y avait Trend Spider qui nous mettait en avant l'ETF Energy, qui est le XLE sur la bourse américaine, qui pourrait acter un breakout long terme ici autour de la zone des 51. Je ne sais pas si c'est libellé en dollars, je suppose que oui. Toujours est-il, il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là par rapport donc XLE, et je crois qu'il y a XLP également au niveau des ETF qui étaient surveillés et en tout cas dont les réseaux parlaient ces jours-ci. Comme d'habitude, j'essaie de vous donner des idées. Ensuite, il n'appartient qu'à vous de creuser un petit peu pour voir ce que vous voulez mettre justement dans vos portefeuilles tout court. On avait un sujet qui peut-être est passé un peu à travers également ces derniers jours avec le PDG de OKX qui a attaqué frontalement sur les réseaux Binance et CZ nominativement, donc l'ancien CEO qui a fait un peu de prison, etc. Je ne vais pas refaire toute l'histoire. Et donc, il est revenu sur cette fameuse nuit, souvenez-vous, du 10 au 11 octobre 2025, quand on a des tokens et des altcoins qui ont fini par aller quasiment à zéro. C'était le cas de Atom Cosmos qui est venu balayer très très près du zéro. On a eu une descente également, bah justement, comme on l'a vu sur la mèche tout à l'heure du graphique de AAV. Il y en avait pléthore, bien entendu, mais voilà, on a eu une crise de liquidité et on a eu des altcoins qui, en une heure de temps, ont perdu 70, 80, 90% de leur valeur. Et donc, tout ça aurait pu être manigancé quelque part, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais orchestré par le fait que Binance avait lancé une promo offrant 12% d'intérêt sur l'USDE de Ethena. Et donc, tout ça a déclenché un peu une spirale négative avec un stablecoin qui n'est pas un stablecoin classique pour l'USDE, mais c'est un fonds spéculatif hedge fund déguisé. L'argent est investi dans des stratégies de trading algorithmique risquées, puis transformé en jetons. Donc, ils ont fait ce que font la plupart des gens en DeFi pour avoir toujours plus de rendement et pour dire sur les réseaux sociaux, regardez, j'arrive à faire des 20, 30, 40, 60% sur Ethena. Ils ont fait de la boucle. Et derrière, bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, exactement ce qu'on a vu. Est-ce que Ethena et l'USDE ont pu avoir de telles implications et de telles ramifications à ce point sur l'ensemble du marché? Je suis un tout petit peu dubitatif, mais le fait que à ce jour, on a un CEO de nouveau qui attaque frontalement un autre exchange. Ça n'est pas sans rappeler ce que CZ lui-même avait fait avec FTX à l'époque. Donc aujourd'hui, je suppose que la phase de marché est somme toute assez différente, mais c'est vrai que voilà, ça laisse se poser quand même pas mal de questions. Et là aussi, c'est pas pour dire on avait raison, on avait tort, mais ça fait très longtemps sur la chaîne qu'on a pointé le fait que Ethena et ce genre de projet pouvaient être le signe noir de ce cycle. Alors finalement, est-ce que ce 10-11 octobre, on a eu un signe noir où le marché était tendu comme une arbalète et a rebondi très très fort derrière? Et une fois que la liquidité est revenue sur les exchanges, ça a permis de remettre les prix à flot quelque part. Et derrière, petit à petit, c'est cet émiettement, cet effritement qu'on a vu depuis quelques mois, puisqu'on a à peine 3, 4, 5 mois plus tard, avec effectivement le début de ce bear market, ou du moins on s'est enfoncé dans ce dernier. Et on voit que petit à petit, à minima, on revient tester les bas de mèche sur les altcoins qu'on avait fait ce 10-11 octobre, et voir pour certains altcoins, on est en train de le dépasser à la baisse. Également, comme je vous l'avais dit la dernière fois, pour le petit focus sur Tether, donc qui a été créé il y a de ça quelques années, et qui, pour les États-Unis, pendant l'ancienne administration, était un problème, un caillou dans la chaussure, puisqu'on se demandait justement en 2022 si en plus de FTX, de Terra Luna et de tout ce qui allait bien, on n'allait pas se voir et se faire shooter l'USDT, le Tether, qui aujourd'hui, rappelons-le, notamment en Europe, n'est pas en odeur de sainteté puisqu'il ne coche pas toutes les cases de la compliance. Mais depuis l'arrivée du nouveau CEO Paolo Arduano, qui était l'ancien CTO, donc l'ancien tech qui au final connaissait toute l'architecture et c'est très bien qu'il soit devenu CEO. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils essaient petit à petit de revenir vers le compliance. Donc peut-être qu'un jour, on aura un USDT qui sera totalement OK par rapport à la zone européenne et par rapport à MiCA et tout ce qui s'ensuit. Mais surtout, c'est cette énorme cash machine et cet énorme système qu'ils ont déployé au travers du temps, avec en effet entre 10 et 15 milliards de profits en 2025. Ils détiennent 140 milliards de bons au trésor américain. Mais également, et c'est là où les chiffres font tourner la tête, ils ont accumulé 141 tonnes d'or, estimées entre 20 et 25 milliards en ce moment en fonction des fluctuations du prix de l'or. Côté Bitcoin, ils en ont 96 000, donc le but, bien entendu, va être de franchir les 100 000 dans les prochains mois pour un montant total avoisinant les 8 milliards, peut-être un peu moins aujourd'hui depuis qu'on est descendu 6-7 milliards. Et je suppose que d'ici le prochain cycle, voilà, ça valorisera autour de 10 milliards. Ils visent malgré tout aujourd'hui, dans ce contexte de marché, d'augmenter et d'allouer 10 à 15% de la trésorerie totale en gold qu'ils n'ont pas encore tout à fait. Donc c'est intéressant de voir que, eh bien, on a finalement un peu comme le fameux bundle qui est proposé du côté de Swissborg pour avoir de l'or et du Bitcoin, le tout en ayant comme ça un engin qui, petit à petit, via les 140 milliards de bonds, leur permet d'avoir 10 à 15 milliards de profits par an. Et surtout, le truc complètement délirant, c'est qu'en coût par employé, ça en fait une des sociétés les plus profitables au monde, puisqu'on est à peu près sur 200 employés, et d'après les derniers chiffres, en tout cas si on prend tout l'argent qu'ils ont sous gestion, ça fera à peu près du 100 millions par employé. Donc c'est quelque chose qu'on n'a quasi jamais vu. Il y a peut-être aussi Nvidia, je crois, dans les top sociétés mondiales au coût par employé, ou du moins Nvidia, si je me trompe, pour le coup, c'était juste qu'ils avaient 70-80% de tous leurs employés qui, comme ils avaient des stock options, étaient quasi tous millionnaires, multimillionnaires. Donc aujourd'hui, voilà, on a une machine à cash qui est redoutable, qui est au travers des bons au trésor, ça fournit un moteur constant de cash comme ça qui revient chaque trimestre à chaque fois que ben, les bonds sont payés, et derrière ils réinvestissent en or et en Bitcoin. Donc aujourd'hui c'est le stablecoin légendaire et sur lequel pas mal de pairs se sont faits. Malheureusement pour l'instant, d'un point de vue, on va dire, européen de la force, ils n'ont pas coché toutes les cases de la régulation, et là aussi je vous laisserai seul juge de s'il y a besoin de régulation ou non. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui Tether qu'on estimé opaque à l'époque, il trust complètement tout ce qu'auraient pu faire les meilleures sociétés mondiales. Donc dites-moi en commentaire si aujourd'hui, par exemple, vous préférez utiliser de l'USDT qui, en quelque sorte, est non régulé, mais qui a le vent en poupe, en tout cas de ce qu'on peut apercevoir en termes de métriques multifactorielles, quand on regarde à la fois du côté des utilisateurs, mais aussi des datas de société pure et dure. Ou est-ce que vous préférez la stabilité réglée de l'américain Circle et Coinbase avec l'USDC? C'est deux mondes un peu différents, mais au final, on voit qu'il y en a un qui est extrêmement profitable. Et je me pose la question, notamment pour Circle, de si les autres seront tout aussi profitable un jour. Le Bitcoin à 76 000, donc comme on l'a vu, pas plus, pas moins, on peut même se payer le luxe de venir autour de 71 ici, mais voilà, on est véritablement sur la pente glissante pour le coup. La problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on a désormais quasi toutes les moyennes mobiles au-dessus du pif qui vont faire office de résistance, la moyenne mobile 100 à 87 000, la moyenne mobile 20 à 96 000 et la moyenne mobile 100 à 100 000. Et au sud, on a toujours cette moyenne mobile 200 autour de 58 400, pile poil aligné avec le 0,618 de Fibo. Donc aujourd'hui, clairement, et la vie n'a pas changé depuis des mois, des lustres et des lustres, pour moi, l'objectif final, il est ici à minima 58-60, et ça en ferait un des bear markets les moins traumatisants qu'on ait jamais vu pour le marché crypto. Ça ferait à peine un moins 54%. Moins 50, on signe tous les jours, je pense, sur la première crypto-monnaie du marché, quand on sait que sur les cycles précédents, c'était moins 89, moins 85, moins 77 sur le cycle de 2022. Et aujourd'hui, voilà, si on fait moins 54, c'est extraordinaire. Et si ça se gâte, que Michael Saylor commence à vendre une fois qu'ils ont la tête sous l'eau. On a la zone élargie autour des 48, 49 à 52, 53. Le 0,78,6 de Fibo autour de 39, 40. Voir s'il y avait un cataclysme type OKX, Binance qui rentre en guerre ou je ne sais quoi, on peut tout à fait finir autour de 30 000 $. Et ça en ferait de nouveau, même à 30 000 $, le bear market le moins profond de l'histoire, puisque on serait à peine à moins 75%. Donc approximativement 2 points de moins que le bear market précédent. Donc aujourd'hui, quand on parle depuis très longtemps de cette fameuse moyenne mobile à 200 semaines à 58 000 $, ça en fait un des bear markets. Le bear market d'ailleurs le moins traumatisant qu'on ait jamais vu si on vient sur cette zone. Et je pense que ça serait vraiment pas cher payé pour un bear market. Le VIX autour de 18, donc l'indice de la peur et de la volatilité reste haut, tandis que les métaux précieux entament leur rebond et que le XLE, comme on l'a vu tout à l'heure, nous fait un breakout d'anthologie, puisque c'était cette zone en effet autour de 50 et on est à 51,67. Pour le SPDR ETF, donc c'est le State Street Energy Select Sector, et on a le XLP, lui, qui pour le coup est le Consumer Staple Sector, et pareil, qui est en train de break fort vers le haut avec une trend qui au travers du temps est extrêmement soutenue et il est autour de 85,87 aujourd'hui. Le gold donc qui nous fait probablement son dead cat bounce, puisqu'on a quand même fait une amplitude complètement folle depuis les 5000 quasi 600 dollars l'once, on était redescendu à 4400 sur le début de cette semaine et on est de retour à 5000. Là aussi d'énormes volumes sont échangés hein, sur les métaux précieux. L'Eurostox n'est pas en reste en positif de 0,40, c'est plutôt positif. Le futur du S&P pourrait réouvrir dans le vert, toujours au contact de la moyenne mobile 20. Pour l'instant, ça tient, mais les oscillateurs sont pas super ragoûtants hein, pour le S&P et le Nasdaq. On avait quand même clôturé hier à moins 0,85 et moins 1,55 pour le marché de la tech américaine qui, elle, joue dangereusement avec sa moyenne mobile 20. Et si ça lâche dans un premier temps, c'est retour à 23 000, moyenne mobile 50, et voire les 22 et par la suite 0,38,2, donc qui est le premier arrêt, comme on dit, autour de 20 000 points, donc une descente d'environ une vingtaine de pourcents pour le Nasdaq, et ça pourrait se faire sans sourciller. Le crypto total, donc, ça représente ce qu'on voit du côté de Bitcoin, hein, autour des 75 000, bloqué à 2500 et des brouettes, milliards. Donc aujourd'hui, si ça descend à la cave, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est les 2000. C'est pas si mal, puisque ça nous fait des comptes ronds, et d'un point de vue psychologique, c'est assez facile, finalement, de se projeter là-dessus. La seconde crypto-monnaie du marché, 2280 Ether, a été payée à 2100-2150. Normal, c'est le pivot long terme. Si ça continue de descendre, on pourrait le revoir autour de 1600 $. Voir pourquoi pas, si vraiment ça se gâte très fort, autour de 1400, qui est le point haut, comme on l'a vu plusieurs fois, de janvier 2018. Donc Ether, aujourd'hui, qui est à manipuler avec énormément de précautions. Du côté des minières et des treasury compagnies, on a TerraWulf qui reprend 10% et qui d'ailleurs se maintient très bien et très haute par rapport à d'autres. Donc c'est peut-être à noter par la suite. On m'avait demandé également dans les commentaires de jeter un coup d'œil à Coinbase qui s'approche doucement mais sûrement de la moyenne mobile 200. Donc ça peut être devenir intéressant pour commencer un DCA potentiellement par rapport au top. Aujourd'hui pour Coinbase, on est à moins 60%. Donc là, clairement, pour une action aussi bien capitalisée aujourd'hui, ça peut devenir intéressant. La question c'est si Bitcoin va à 50 000, est-ce qu'on ne va pas revoir plutôt Coinbase autour de 120 $? Donc il faut y aller mollo puisque le couteau ne s'est toujours pas planté. Et les plus patients d'entre vous, quelque part, c'est ce que je dis régulièrement, notamment pour les altcoins, attendront les premiers signaux de retournement pour pas payer comme ça complètement à l'aveugle. On m'a demandé également Circle. Circle, c'est pareil, on est en train de passer sous le prix d'introduction, 64 $, on est à 56. Par rapport au top qui était à 300 balles tout rond, ça fait exactement ce que Coinbase a fait à l'époque, moins 82%. Donc là, on attendra pour Circle d'avoir les premiers signaux de retournement. Et par signaux de retournement, je veux à minima une stabilisation et peut-être voilà un double creux qui nous permette de nous relancer. Donc pour l'instant, on n'y est pas du tout. Côté action américaine, j'ai pas plus, pas moins pour l'instant, si ce n'est de surveiller peut-être tous ceux qui a baissé énormément, notamment MSCI, notamment le Nasdaq, moins de 10% au contact de la moyenne mobile 50. On a Novo Nordisk qui efface de nouveau tous les gains qu'il avait fait ces dernières semaines. On était à 64 $, on est de retour à 50. On a le support qui avait été d'ailleurs méché en novembre 2025 autour de 45 $. Et enfin PayPal, 42 $, qui se fait oblitérer, lui, énorme bougie ici. On revient sur les prix de 2015-2016. Donc on va se mettre une petite box de surveillance. Je ne suis pas fondamentalement le plus intéressé à ce jour par rapport à PayPal. actuelle, mais là, en termes de ratio risque-récompense, la personne qui va payer sur les prix d'il y a 10 ans entre 30 et 40 dollars pour ne serait-ce que viser ici le point de janvier 2025 autour de 100 dollars, voilà, le ratio risque-récompense est là. On peut mettre un stop légèrement en dessous des 30 dollars pour ceux qui paieront bas, et on a un RSI qui est quasi au plus bas de ce qu'il avait été en janvier 2022. Donc à voir ce que ça pourrait donner pour PayPal, mais on va le garder de côté pour voir un petit peu par la suite comment ça va évoluer. D'ailleurs, on voit un peu le miroir inverse côté Europe et Amundi justement. Alors, il a reculé quand même sur ce début de semaine de moins 3,75%, mais comparativement à des Nasdaq, des MSCI et compagnie américains ICE qui reculent de 6 à 10%, on s'en sort véritablement pas mal hein, pour Amundi pour l'instant. On a Total également 1,40 qui bataille avec la zone de sortie ici qu'on avait établie la dernière fois. Côté Japon, ça se passe plutôt pas mal avec un Nikkei pareil qui essaie d'aller chercher un nouvel ATH. Ceci étant dit, les oscillateurs sont très hauts et les marchés sont tous toujours très hauts. Donc on se demande quand est-ce que véritablement il va y avoir des prises de profit un peu plus importantes. Et donc en guise de conclusion à cette émission, on répondra à Loulou MS qui nous demandait en commentaire du jour le son qui coûte cher comme tu dis, j'ai perdu 250K à 23 ans. Il me reste quasiment rien. Aurais-tu des conseils pour se relever et aller plus haut la prochaine fois? C'était mon premier cycle rentré en 2022. Alors malheureusement, on a demandé à cette personne de nous donner plus d'infos qu'on n'a pas eu aujourd'hui. Donc si tu vois cette émission, n'hésite pas à nous donner plus de détails pour qu'on puisse éventuellement voilà, étudier un petit peu ce qui s'est passé. Puisque là, premièrement, on ne sait pas si c'est 250K que tu as mis de ta poche ou que tu as gagné et que tu as reperdu derrière. Ça change absolument tout. Et deuxièmement, le seul conseil qu'on puisse te donner, c'est si aujourd'hui sur les marchés, tu as réussi à générer à un instant T 250 000 en étant rentré au bear de 2022, tu auras la possibilité plus tard de le régénérer. Peut-être pas dans les proportions que ça a pris justement le marché crypto ces dernières années. Peut-être que ça prendra beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais à partir du moment où vous avez réussi une fois, en général sur les marchés, que vous avez compris comment fonctionnent à la fois les moments euphoriques, les moments de déprime, quand est-ce qu'il vaut mieux rentrer, quand est-ce qu'il ne vaut mieux pas rentrer justement. En général, vous arrivez à peu près à vous en sortir derrière. Donc aujourd'hui, les conseils pour se relever et aller plus haut, eh bien, c'est des grandes discussions qu'on a justement en ce moment sur le Discord. Que vous ayez 10 000, 200 000, 1 million ou que sais-je, j'ai bien peur qu'aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on vit et notamment les réseaux sociaux qui sont biberonnés à gagner de l'argent vite fait, bien fait, tout le monde n'a que ce mot à la bouche, eh bien malheureusement, on en oublie la réalité des marchés qui ont leur propre timing et qui la plupart du temps, même pour des indices qui offrent du 8-10% annualisé, si on parle du S&P 500 et du World, ont tendance justement à rendre les gens riches, entre guillemets, toujours, doucement mais sûrement, et beaucoup moins rapidement que ce qu'on le voudrait ou le penserait. Donc, on peut arriver avec ces 1000 premiers dollars et faire du gambling sur les mêmes coins et se dire ça passe ou ça casse et perdre plusieurs fois tout son capital. Ceux qui ont très peu de fonds, la plupart du temps, font ça en se disant c'est un peu quitte ou double, comme s'ils jouaient à la roulette ou au loto. Mais malheureusement, bien souvent, ben, ça se termine par un compte qui est cramé, par tout le capital ou le livret A qui est cramé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, même pour une personne qui n'aurait que 5 ou 10 000 euros ou dollars à investir, que ça soit sur le marché crypto ou que ça soit sur les marchés traditionnels, puisqu'aujourd'hui on ne peut que de plus en plus aller dans le sens d'une diversification, on se rend compte à quel point le marché crypto malheureusement peut être délétère au long terme et notamment du côté des altcoins quand on les détient trop longtemps. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de projets qui tendent à aller vers zéro au travers du temps. Pour conseiller autre chose légitimement ou logiquement aujourd'hui que le Bitcoin quand on vient au marché crypto, et donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire ce travail inverse, notamment pour ceux qui se sont fait dans la crypto, de se dire que ce qu'on a connu n'était pas normal et de revenir à des résultats qui, pour les 5 ou 10 prochaines années, seront bien en deçà de ce qu'on a connu cette dernière décennie. Donc n'hésite pas à nous recommander pour nous donner un petit peu plus de profondeur sur ta situation et on suivra ça si on a un retour de ta part, bien entendu. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée. On se retrouve d'ici ce week-end pour faire le débrief de la semaine et continuer d'être prudent. Ciao, ciao.